Heureux de vous retrouver encore ce matin et de pouvoir partager avec vous le message du Seigneur dans sa parole. Nous avons un Dieu qui nous parle et on a eu un message récemment sur le fait d'écouter Dieu et combien c'est important de ne pas avoir une oreille légère, une oreille qui transpercée, qui ne retient pas, mais d'avoir un cœur qui écoute le Seigneur. Et ma question ce matin, c'est: est-ce que nous vivons vraiment par la foi? Est-ce que nous vivons vraiment par la foi? Il y a trois passages dans les Écritures qui disent, qui répètent, le juste vivra par la foi. Trois fois. Et quand c'est dit trois fois, ça veut dire que c'est vrai et absolument vrai et très important. Le juste, ce n'est pas simplement une personne parfaite. Le juste, c'est celui qui est justifié, qui est déclaré juste justement par la foi au Messie et la foi en Jésus. Il vivra par la foi, dit la Bible. Et j'aimerais qu'on regarde quelques versets dans Hébreux chapitre 11, qui est le chapitre de la foi. Hébreux chapitre 11 dans le Nouveau Testament. Et il y a une phrase qui revient. Est-ce que vous pourriez me la citer, cette phrase qui revient? Qui revient, qui est répété dans ce chapitre. C'est par la foi, hein, il a trouvé. C'est par la foi que. C'est par la foi que. Par exemple, ça commence au verset 3. Hein, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Voilà, c'est par la foi que ce monde, cet univers vient de Dieu directement, créé par sa parole. Verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Verset 5, c'est par la foi qu'Énoch fut enlevé. Verset 7, c'est par la foi que Noé construisit une arche. Verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, obéit et partit pour un lieu. C'est par la foi qu'il vint s'établir, etc. Et Moïse aussi, c'est par la foi. Il y a Isaac, il y a Jacob, c'est par la foi que Joseph, c'est par la foi, verset 23, que Moïse, à sa naissance, fut caché par la foi de ses parents. Et puis, verset 24, c'est par la foi que Moïse, sa propre foi cette fois-ci, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi, c'est par la foi. Est-ce que nous vivons vraiment par la foi? Nous voyons dans ce chapitre 11, et je vous encourage à le relire ensuite chez vous, que par la foi, il y a plein de choses qui se passent. Abel offrit un sacrifice, Noé construisit un bateau, Abraham partit dans une ville, un pays, Sarah enfanta, Abraham offrit son fils, Isaac bénit ses enfants, Jacob bénit les enfants de Joseph, Joseph donne des ordres, Moïse est caché, Moïse refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon, Moïse quitte l'Égypte par la foi, Moïse fait la Pâque par la foi, Moïse traverse la mer Rouge, Josué fait tomber les murailles de Jéricho par la foi, Rahab, la prostituée de Jéricho, est sauvée par sa foi, etc. La foi agit. La foi, ce n'est pas un gaz, la foi, ce n'est pas une émotion. Dire, oh, je ressens la foi. Non, nulle part dans la Bible, on ne ressent la foi. La foi agit. Et la foi, c'est un choix aussi. C'est par la foi. Ça veut dire qu'ils ont choisi de croire. C'est pas qu'ils ont reçu de la foi et ça y est, ils ont fait d'autres choses. Non, c'est par la foi qu'ils ont décidé certaines choses. La foi leur a coûté des choses. La foi a coûté leur réputation, parfois. Leur confort, surtout. Leur vie, parfois. Dans ce chapitre 11, il parle de tous ceux qui ont été mis à mort à cause de leur foi. Et nous avons une lignée de chrétiens qui sont morts pour leur foi, notamment en France, parce qu'ils croyaient dans la parole de Dieu, parce qu'ils ont traduit la Bible, parce qu'ils ne suivaient pas le pape ou le Vatican. Ils ont été mis à mort en France. Nous avons cette lignée de croyants qui, par la foi, ont perdu leur vie, ou leur confort, ou leur réputation. Mais aussi la foi procure des choses. On perd des choses, mais on gagne des choses. Le salut est obtenu par la foi, par le moyen de la foi. La place au ciel, le fait d'être certain d'aller au ciel après sa mort, comment l'obtient-on? Est-ce que c'est par nos œuvres, par nos efforts, par nos prières, nos... Non, la Bible dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés, que nous sommes rachetés, que nous sommes purifiés, justifiés. Toujours la foi, la foi. C'est par la foi que des miracles ont été accomplis par des hommes et des femmes de Dieu. C'est par la foi que des victoires ont été gagnées. Josué en est l'exemple. Une victoire incroyable contre une ville extrêmement fortifiée, extrêmement puissante. Et lui, il est arrivé avec sa petite armée. Ils ont fait le tour de la ville par la foi. Et puis, quelque chose s'est passé. La voix de Dieu a fait tomber les murailles de Jéricho. La foi a vraiment changé le cours de leur vie, ça c'est sûr. Abraham ne serait pas Abraham sans la foi. Moïse n'aurait pas été Moïse sans la foi. Et imaginez un petit peu avec les personnages de l'Ancien Testament, s'ils n'avaient pas eu la foi. Dieu a appelé Abraham et dit « Abraham, je vais multiplier ta postérité, tu vas avoir un fils et une postérité immense, tu vas quitter ton pays. » Il habitait à Ur, en Chaldée, en Irak actuel. Ur, c'était une grande civilisation, très moderne, très évoluée, 2000 ans avant Jésus-Christ. Et lui, vivait, il était un homme assez riche, certainement. Il était vraiment quelqu'un d'important déjà. Et Dieu lui dit, tu vas tout quitter, tu vas quitter ta famille, ta ville, et tu vas aller dans un pays que je te montrerai. Si Abraham n'avait pas eu la foi, qu'est-ce qu'il aurait dit? Bon, écoute, d'abord, je ne te connais pas. Tu me parles, mais je ne sais pas qui tu es. Moi, mon père, il m'a appris les idoles, il était fabricant d'idoles. Moi, ce que je connais, c'est les statues. Ça, je connais, mais toi qui me parles, je ne te vois pas. Et puis, tu me dis d'aller, de partir, de tout quitter, mais ce n'est pas possible. Enfin, tu ne te rends pas compte. Je suis bien, moi, je suis à Ur, c'est une grande ville. Pourquoi je vais quitter ma vie confortable et riche pour aller dans un endroit? Tu ne me dis même pas où. Si au moins tu me disais, je vais t'envoyer là-bas à tel endroit, bon, ben là déjà, je serais un peu plus, je pourrais étudier la question. Mais là, tu me dis, je vais dans un pays que je te montrerai. Et tu veux que je quitte mes parents en plus. Je ne sais pas si Abraham était un tanguy ou pas, ou s'il était très jeune quand Dieu l'a appelé, mais c'était dur de quitter ses parents. Il faut dire aussi qu'au Moyen-Orient, les parents vivaient avec les enfants, ça se passait aussi dans notre pays, jusqu'à la fin de leur jour. Ils restaient, quand ils étaient à la retraite, si on peut dire, ils restaient avec leurs enfants. Mais Dieu lui dit, tu vas devoir quitter la maison de ton père. C'était un déchirement. Mais Abraham a eu la foi. Il a choisi de suivre l'ordre de Dieu, ce Dieu invisible. Mais ce Dieu qui lui a parlé, ce Dieu qui l'a comblé. Parfois, il a chuté, Abraham. Il n'a pas toujours eu cette foi. On voit bien dans son histoire, il a des moments, il n'a pas tenu bon, mais au fond de lui, il a fait confiance à Dieu. Ça change tout d'avoir la foi. La Bible dit, « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Si vraiment je suis chrétien, je dois marcher par la foi. Ça doit être un choix volontaire, conscient. « Seigneur, je veux marcher par la foi. » Parce qu'il y a d'autres façons de marcher dans la vie. On peut marcher par ses propres forces. C'est-à-dire, il faut se battre, les gars. On va s'en sortir. Je vais me relever, puis on va y aller. Puis je vais prendre des vitamines ou je ne sais pas quoi. Mais je vais faire de la méditation. Je vais, comme un petit peu ce que nous a lu tout à l'heure Stéphane, par la volonté, ma volonté, on va y arriver. C'est beau tout ça sur le papier, mais il y a plein de choses qui peuvent vous arriver indépendante de votre volonté, justement. Admettons que vous soyez malade et handicapé. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez plus de force. Admettons qu'il vous arrive un problème grave. Vous perdez quelqu'un de proche. Qu'est-ce que vous faites? Sans la foi, vraiment, la vie est absurde et désespérante. Sans la foi, la vie est absurde parce qu'on ne comprend pas pourquoi il y a la mort qui vient interrompre notre vie. On ne comprend pas pourquoi cette mort touche tout le monde, les bons et les méchants. Pourquoi cette mort arrive trop tôt à chaque fois? On ne comprend pas pourquoi il y a tant d'injustices sur la terre, de disparités, de différences. C'est désespérant parce que quand on n'a pas Dieu, quand on n'a pas cette foi dans un Dieu proche et personnel, eh bien quand on n'a plus rien, quand on n'a plus d'appui, quand les forces tombent, on est seul, totalement seul. On a plein d'amis quand on est riche et bien portant, mais dès qu'on commence à avoir des gros problèmes, les amis se comptent sur les doigts de la main. Et la vie peut être désespérante. Mais la foi, c'est un choix de faire confiance à Dieu, de ne pas compter sur ses propres forces. Aussi, on peut compter sur sa propre sagesse. Dire, bon, moi, je pense que c'est ça que je dois faire, et j'ai bien pesé tout, le pour, le contre, j'ai bien calculé, voilà, j'ai planifié ma vie, et l'année prochaine, je fais ça, voilà. C'est bien de penser à l'avance, de ne pas être quelqu'un qui est toujours surpris par les choses. Il faut prévoir. Être prévoyant, c'est une qualité, c'est une vertu. Mais quand on est tellement prévoyant qu'on ne fait plus confiance à Dieu, c'est-à-dire, moi j'ai tout prévu, j'ai tout calculé. Alors Seigneur, surtout, tu ne viens pas déranger mon petit plan. Parce que là, j'ai tous les trucs en place. Si toi, tu viens me mettre un truc, ah non. Là, tu casses tout, mon château de cartes, là, s'effondre. Surtout, tu n'interviens pas trop. On ne le dit pas à Dieu. Personne, j'ai jamais entendu une prière comme ça. Mais en fait, on le pense. Quand on a sa propre sagesse au lieu de la foi. On peut avoir sa propre justice aussi. Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Regarde ce que je fais, je suis quand même quelqu'un de bien, je fais des efforts pour être gentil, pour être patient avec les autres. Seigneur, j'espère que tu vois ça, que tu vois ma propre justice et que tu vas me bénir en conséquence. La propre justice, c'est vraiment l'opposé de la foi. La foi, c'est Seigneur, je suis un pécheur. Mais je compte sur ta grâce. C'est sans ta grâce, je ne serai rien. C'est Paul qui a écrit, hein, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est que sans la grâce de Dieu qui l'avait sauvé, il serait encore un homme plein de haine, d'amertume, de violence. Son but, c'était d'arrêter tous les Juifs qui croyaient en Jésus et de les mettre à mort. Voilà le but dans sa vie. Mais il a changé de but le jour où il a rencontré Jésus-Christ. Et il a commencé à marcher par la foi en Jésus-Christ. Et par la foi, Dieu lui a dit, tu vas rester 2 ans en Arabie et tu vas écouter ma sagesse et mes conseils. Il aurait pu tout de suite se lancer comme évangéliste, missionnaire. Non, par la foi, il a obéi à Dieu. Il est resté plusieurs mois à chercher Dieu, à comprendre Dieu, à recevoir de Dieu la parole. Et après, il s'est levé. Et il a commencé à être le missionnaire, l'apôtre Paul que l'on connaît. Si Paul n'avait pas eu la foi, eh bien, il serait encore à courir après les chrétiens. On peut aussi chercher son propre intérêt au lieu de chercher la foi, de marcher par la foi. Son propre intérêt, c'est-à-dire ben, être égoïste, moi d'abord. Du moment que ça m'arrange, ça va. Si Dieu me demande quelque chose qui n'est pas dans mon intérêt, enfin que je crois être dans mon intérêt, alors je vais dire non. Je vais marcher par la foi quand ça m'arrange, quand ça m'intéresse. Est-ce que vous croyez qu'Abraham et Moïse et Josué, ils ont fait ça? Sarah et tous les hommes et les femmes de Dieu de l'histoire, est-ce qu'ils cherchent leur propre intérêt? C'est vraiment l'image qu'on trouve dans Abraham et Lot. Abraham était avec son neveu Lot. Ils voyageaient ensemble avec leurs troupeaux, leurs familles. Ils ont quitté Ur ensemble. Et Lot a eu la foi avec Abraham aussi. Hein. Il avait cette foi, le jeune Lot. Et puis à un moment, ils ont dû se séparer. Et au moment de se séparer, Abraham a dit, « Écoute, choisis le coin que tu veux prendre et moi je m'installerai ailleurs. » Et Lot, dit la Bible, a vu la plaine de Sodome et Gomorre comme un jardin arrosé. Parce que Sodome et Gomorre, aujourd'hui, est un lieu totalement mort, désertique, rempli de sel, de soufre et de sable. Il n'y a pas quoi que ce soit qui arrive à pousser là-dedans. Mais les archéologues ont fouillé sous la terre et ils ont trouvé des restes de plantations et d'irrigations. Avant que le jugement ne tombe sur Sodome et Gomorre, c'était une plaine magnifique, riche, abondante. Et Lot, il a vu ça et s'est dit, mais j'ai tout à gagner, moi, aller là. Ça a l'air riche, ça a l'air bien. Mais il savait certainement qu'à Sodome et Gomorre, on ne craignait pas Dieu. Qu'il y avait énormément de débauche, de perversion même, hein, morale, spirituelle. Et Lot, il a cherché son intérêt et il a dit, je vais aller à Sodome et Gomorre. Et il y est allé. Et la vie de Lot, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a compté? Pourquoi elle a compté? Pour zéro. Lot, il n'a rien fait. Il était là dans cette ville. Et quand Dieu a envoyé le jugement, il a sauvé Lot de justesse. S'il n'y avait pas eu Abraham qui intercède. Hein. Et Lot est sorti de Sodome et Gomorre. Même sa femme est morte parce qu'elle n'a pas eu la foi de regarder vers Dieu. Elle a voulu retourner à Sodome et Gomorre. Toute la ville a été détruite par le jugement de Dieu. Et les gendres de Lot n'ont pas voulu croire quand il a dit « Sauvons-nous, il y a un jugement qui va tomber ». Ils ont rigolé. Ils ont dit, oui, c'est ça, oui, il y a un jugement qui va tomber. Regarde, regarde, regarde comme c'est beau. Vraiment, Sodome et Gomorre, à l'époque, ça pouvait être comme la Toscane. Je ne sais pas si vous avez vu déjà des images de la Toscane, mais c'est plein avec les coteaux. C'est tellement beau. Et on vous dit, écoute, demain, ça va être un désert. T'es gentil, mais... Sauf que si Lot avait marché par la foi toute sa vie, il l'aurait écouté, mais là, ils ne l'ont pas écouté. Lot est vraiment un exemple du juste qui ne marche pas par la foi. La Bible dit que la foi est le contraire de la vue. Hébreux 11:8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est le contraire de la vue. Il est parti sans savoir où il allait. C'est Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, qui dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » C'est peut-être le plus dur pour nous. Nous, on a l'habitude de voir, de toucher. Et est-ce qu'on marche vraiment par la foi? Est-ce qu'on vit par la foi? Ou est-ce qu'on vit par la vue? La confiance en Dieu, c'est la confiance en un Dieu invisible. Nous croyons en un ciel, un paradis invisible. On n'a pas vu de photos, on n'a pas de preuves. Dieu, même, on ne l'a pas vu. Les témoins oculaires ont vu Jésus-Christ. Mais personne n'a jamais vu Dieu. Et on marche par la foi. On croit au Seigneur. On croit que ce monde a été créé par la parole de Dieu. C'est par la foi qu'on le croit. Ce n'est pas stupide, la foi. C'est simplement que c'est sans la vue. Et nous, on a tendance à vouloir voir, à chercher, mettre l'homme au centre au lieu de mettre Dieu au centre. On regarde vers les hommes, il faut regarder vers le Seigneur. Si je fais confiance à Dieu, je fais confiance aussi quand je ne vois pas ce qui va se passer. Imaginez que Dieu nous demande quelque chose et on ne sait pas où ça va mener. Dieu dit, écoute, je t'appelle à partir en Indonésie. D'accord. Seigneur, alors dis-moi comment ça va se passer, je vais être avec qui, dans quelle église? Non, je t'appelle à partir en Indonésie. Oui, oui, mais quand? Donc, j'ai combien d'années pour me préparer? Non, je t'appelle à partir en Indonésie. Nous, on veut voir, on veut calculer, on veut préparer, programmer, mais Dieu, lui, il appelle. Et après, il s'occupe du reste. Abraham est parti sans savoir où il allait. Et Dieu l'a conduit. Et Dieu l'a béni. Il n'a jamais manqué de rien. Il a eu des épreuves, des difficultés, mais Dieu a fait tout ce qu'il lui avait dit. Toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham se sont tenues à la lettre, contre toute attente. Même le fait d'avoir un enfant alors qu'il était vieux et que sa femme était stérile, Dieu a fait ce miracle de leur donner un fils, Isaac. Et ce fils a eu beaucoup d'enfants, et ils ont eu beaucoup d'enfants, et la postérité prévue par Dieu s'est accomplie. Mais Abraham n'a rien vu, au sens où il devait faire confiance à Dieu au fur et à mesure. C'est ça, vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est faire confiance à Dieu pour toute ma vie. pas simplement pour le dimanche matin. Seigneur, je vis par la foi, je compte que le culte se passe bien et qu'il y a un bon message. Et puis arrive le lundi, fini la foi, hein. C'est moi qui gère tout, c'est moi qui calcule tout, c'est moi qui programme tout, c'est ma sagesse, mes forces, ma justice, mes décisions. Dieu est oublié, et hop, il est rangé dans la boîte. On le sort le dimanche et on le range le dimanche soir dans la boîte. Des fois, c'est même on le range dimanche à 13h. Vivre par la foi, c'est que Dieu, il est là tout le temps et que je lui fais confiance tout le temps pour toute ma vie. Pour mes décisions en particulier, chaque fois que j'ai une décision, est-ce que je consulte le Seigneur? Est-ce que je demande à Dieu en disant, Seigneur, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que c'est ça que tu veux pour ma vie? Parfois, il faut même revenir en arrière sur des décisions qu'on a prises dans la chair. Dire, Seigneur, j'ai pris cette décision, mais je pense que j'étais dans la chair. Est-ce qu'il y a moyen de revenir en arrière? Parfois, on ne peut pas revenir en arrière. C'est trop tard. Mais parfois, on peut revenir en arrière. Et il faut le faire. La Bible dit, si tu es pris dans le filet, dégage-toi, comme l'oiseau se dégage du filet de l'oiseleur. Il faut savoir se repentir dans la vie chrétienne. Il faut savoir reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on a mal agi avec le Seigneur, qu'on a fait les mauvais choix. Aussi dans notre attitude, est-ce que je compte sur Dieu pour mon attitude, mes sentiments? On n'y pense pas toujours. On dit, mais moi, lui, je ne l'aime pas. Ou aujourd'hui, je suis pas bien, je suis angoissé. Et alors, est-ce que ça ne peut pas changer? Est-ce que Dieu ne peut pas intervenir? Est-ce que Dieu ne peut pas te donner l'amour et la paix? L'amour pour la personne et la paix dans ta journée? Est-ce qu'on le croit vraiment? Oui ou pas? La foi va compter sur Dieu, même dans mes sentiments, dans mes émotions, dans mes attitudes, dans mon caractère, dans l'épreuve aussi. Comment je réagis dans l'épreuve? Est-ce que je panique? Est-ce que je jette tout? Est-ce que j'arrête tout? Est-ce que j'envoie tout valser? Ou est-ce que je me tourne vers le Seigneur, dire « Seigneur, voilà, on fait face à une épreuve. Ça me fait peur, je ne sais pas comment on va s'en sortir, je ne vois pas de solution, mais toi, tu vois une solution. » Ça, c'est marcher par la foi. Ça, c'est la vie par la foi. La vie par la vue, c'est « Oh, y a une épreuve, c'est terrible, et on panique, et, oh, je ne vais jamais y arriver, ce n'est pas possible, pourquoi Dieu permet ça dans ma vie ?» Ça, c'est le manque de foi. Ça, c'est par la vue. La foi, elle ne voit pas simplement l'épreuve comme une difficulté ou une horreur. La foi, elle voit l'épreuve comme même un moyen de grandir en patience, en foi, justement, en confiance. Est-ce que ce n'est pas dans l'épreuve qu'on a appris à connaître Dieu le plus? Est-ce qu'il y en a qui ont connu plus Dieu à travers l'épreuve ici? Merci à Job aussi, notre ami Job. C'est le thème du livre de Job. Job pensait être un bon croyant, et puis cette épreuve, ce lot d'épreuves qui l'accable, quelque chose qui n'arrive qu'une fois tous les 10 000 ans, hein, quelqu'un soit éprouvé comme Job, tout en même temps. Mais de ça est sortie une connaissance de Dieu qu'il n'avait pas. Mais c'est ça la foi, vivre par la foi. Ce n'est pas voir la vie comme avec nos yeux simplement charnels, c'est de voir la vie avec Dieu. Et c'est de voir la vie aussi du côté éternel. Nous sommes très terrestres, nous sommes très préoccupés par notre vie terrestre. Et c'est normal, on vit sur la terre. Tant qu'on vit sur la terre, c'est là qu'on doit s'occuper. Mais Jésus nous a dit de ne pas nous attacher aux choses terrestres, mais de regarder aux choses célestes et éternelles. Parce que, pourquoi il a dit ça? Qu'est-ce qu'elles ont les choses terrestres? Elles disparaissent, elles rouillent, elles meurent, elles fadent. Et voilà ce qui, aujourd'hui, me paraît passionnant, merveilleux, d'une façon terrestre. Dans un an, peut-être, ce sera aucun intérêt. Et quand je serai mort, alors c'est sûr, ça n'aura aucun intérêt. On va tout laisser sur terre de terrestre. Hein. Quand on meurt, on laisse tout, on repart nu. Mais recouvert des choses célestes et éternelles. Est-ce que je pense à l'éternité? Combien de fois j'y pense à l'éternité? Pourquoi Abraham, Moïse ont quitté leur confort pour suivre le Seigneur, parce qu'il regardait aux choses éternelles. Moïse était élevé à la cour de Pharaon, donc il avait toute la sagesse, la richesse de la fille de Pharaon, toute l'éducation égyptienne, la noblesse des Égyptiens, la religion des Égyptiens. Il y avait une très grande religion, très complexe, très riche. Et là, il réalise qu'il fait partie du peuple hébreu, qui est un petit peuple de bergers assez rustre, qui n'a pas plus vraiment de religion parce qu'ils ont plus ou moins perdu de vue le Seigneur, qui sont pauvres et esclaves. Et Moïse choisit de quitter tout ce qu'il avait d'Égypte pour aller rejoindre et défendre le peuple hébreu. Ou il était fou, ou il voyait quelque chose que les autres hommes ne voyaient pas. Je pense qu'il n'était pas fou. Je pense qu'il était très sage, mais de la sagesse de Dieu. Il a vu qu'il y avait Dieu. Et il préférait être avec Dieu dans l'inconfort des Hébreux que d'être sans Dieu dans le confort de l'Égypte. Nous avons aussi en Occident ce dilemme. Notre monde propose beaucoup de confort, beaucoup de divertissement, beaucoup de plaisir terrestre. Et on peut passer sa vie dans ces choses-là. On peut vivre à Disneyland toute sa vie. Mais quand on meurt, qu'est-ce qui reste de Disneyland? Ben, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Alors que quand on vit pour les choses éternelles, pour les âmes en particulier, ce qui est éternel sur la terre, ce n'est pas les choses, ce sont les âmes, les personnes. Est-ce que je me préoccupe des âmes éternelles? Est-ce que je me préoccupe de mon prochain, de ma famille, de mes voisins, de mes amis? Est-ce que je prie pour eux? Est-ce que je leur annonce la bonne nouvelle? Est-ce que je leur dis comment avoir la vie éternelle? Est-ce que je fais des choix? Est-ce que je renonce à certaines choses pour mettre Dieu en premier? Quand on pense au monde perdu, aux gens qui n'ont jamais entendu l'évangile, est-ce qu'on peut rester comme ça et dire c'est comme ça, Inch'Allah, ils n'avaient qu'à écouter l'évangile? Bien sûr, ils ont une responsabilité de ne pas chercher Dieu, mais c'est aussi aux chrétiens d'aller vers les autres, de voir les choses spirituelles. Quand on sera au ciel et quand il y aura des âmes sauvées par notre témoignage autour de nous, alors là, ça va être un élément essentiel du paradis, hein, c'est de dire j'ai réussi à sauver cette âme. C'est pas moi qui l'ai sauvée, c'est Dieu qui l'a sauvée. Mais n'empêche que j'ai eu une part dans son salut. C'est la chose la plus merveilleuse qui puisse nous arriver, de voir nos enfants ou nos parents ou nos voisins, nos collègues. La foi voit l'invisible, voit les choses éternelles qui durent éternellement. Elle ne s'arrête pas aux choses terrestres. Alors ce matin, si Dieu vous demandait ou me demandait quelque chose de difficile, quelque chose d'impossible, est-ce que nous réagirions par la foi ou est-ce que nous réagirions d'une façon charnelle et terrestre? Si Dieu nous disait, voilà, je t'envoie, je t'appelle, ou je veux que tu fasses ceci, ou je veux que tu renonces à ça pour faire cela, qu'est-ce que nous allons répondre à Dieu? Est-ce que nous allons trouver des excuses? Non mais Seigneur, il y a les pasteurs et les missionnaires pour ça. Moi, tu sais, je suis un petit chrétien. Puis je suis pas très bon. Rappelez-vous Moïse, qu'est-ce qu'il a répondu à Dieu au début? Dieu a dit, je t'appelle, tu vas sortir mon peuple d'Égypte, tu vas leur parler. Il a dit, mais je peux pas parler, j'ai la bouche embarrassée. Alors est-ce que c'était vrai ou est-ce qu'il a fait du cinéma? La Bible ne précise pas. Mais il était coquin quand même, Moïse. Hein? Je peux pas parler, moi. Pourquoi tu me demandes à moi? Et Dieu ne s'est pas laissé arrêter, il dit, ben, c'est ton frère qui va parler. Mais c'est toi quand même qui va les sortir d'Égypte. Et nous, on a plein de choses comme ça à Dieu, quand Dieu nous dit, allez, vas-y. Oula, attends, mais regarde, j'ai des problèmes de genoux, je peux pas. J'ai mal au dos. Non, tu sais, j'ai pas fait d'études, moi, Seigneur. On a plein d'excuses pour Dieu, mais Dieu, ce qu'il attend, c'est quelqu'un qui a foi en lui. qui lui fait confiance. Il n'attend pas quelqu'un de doué. Même quelqu'un de doué, ça peut être un empêchement pour Dieu, parce qu'il va compter sur ses dons, sur lui-même. Quelqu'un qui n'est pas doué, il va dire, Seigneur, il faut que toi, tu me doues. Parce que moi, je ne suis pas doué au départ, Seigneur, il va falloir que tu me donnes tout ce qu'il faut. Et cette personne va compter sur Dieu. Paul, je pense, en tant que Saul, était doué pour certaines choses. Il avait toute la connaissance hébraïque des textes, de l'hébreu, du Talmud et tout ça, des commentaires. Il avait aussi une intelligence certainement pour diriger les hommes, puisqu'il avait des responsabilités dans le Sanhédrin, etc. Donc c'était un homme vraiment très capable. Mais je pense que Dieu l'a complètement mis à zéro pour que tous ses dons viennent de Dieu. Et les dons qu'il a ensuite manifestés n'ont rien à voir avec ceux du début. Paul avait beaucoup de problèmes à diriger, justement. Après, il a eu beaucoup d'ennuis, des gens qui étaient contre lui. Par contre, il avait une douceur, une humilité, un amour qu'on ne trouve pas avant, ça c'est sûr. Et on voit bien que c'est la grâce de Dieu qui a fait cette œuvre en lui. Est-ce que la grâce de Dieu ne peut pas faire une œuvre en moi, en nous, et me donner ce dont j'ai besoin pour faire ce qu'il veut, pour faire sa volonté? Parce que s'il y a une chose que nous devons faire, c'est la volonté de Dieu. Si on passe à côté de la volonté de Dieu, on ne vit pas par la foi. Et il y a des chrétiens qui vivent en dehors de la volonté de Dieu. Ils ont un jour reçu le Seigneur, ils ont un jour eu une expérience de conversion, de foi. Et puis, pour diverses raisons, ils ont laissé tomber. Et ils ont repris leur vie dans la chair, par leurs moyens, par leur justice, par leur sagesse. Et Dieu a très peu de place dans leur vie et la volonté de Dieu n'a plus aucune place. Mais ces chrétiens sont prêts à être réveillés aussi. Il suffit que le Saint-Esprit et la parole de Dieu les touche à nouveau pour qu'ils se disent « Je rate ma vie, je passe à côté, Seigneur, je veux revenir à toi. » Il y a des chrétiens qui reviennent à Dieu. Combien c'est beau un chrétien qui revient au Seigneur. J'aimerais aussi m'adresser à ceux qui n'ont jamais saisi le salut par la foi. Vous essayez de mériter votre ciel, de faire des œuvres, des efforts. Vous n'y arriverez jamais. Parce que la Bible est claire, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est par la foi, c'est par la grâce, ce n'est pas par les œuvres. Pourquoi ce n'est pas par les œuvres? Parce que vous ne ferez jamais assez d'œuvres pour atteindre le ciel. Nous avons lu Romains 3, 23 tout à l'heure. Tous les hommes ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. C'est la traduction la plus littérale. Ils n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Ils n'y arrivent pas. C'est trop juste, c'est trop parfait. C'est pour ça que Christ est venu nous racheter. Est-ce que vous comprenez cela ce matin, que vous ne pouvez pas vous racheter, que vous avez besoin que Christ vous sauve, et que s'il vous sauve, vous aurez la vie éternelle, vous aurez le pardon de tous vos péchés, sans œuvre, sans effort, juste par le moyen de la foi en Jésus-Christ, mort pour vous, ressuscité pour vous. Vous allez peut-être répondre, mais c'est trop simple, c'est pas possible. Juste comme ça, alors n'importe qui, un meurtrier, il tue quelqu'un, puis il dit « Ah, je crois, ça y est, il est sauvé ». S'il se repent vraiment, oui, il peut être sauvé. Il y a plein de meurtriers en prison qui se sont repentis, qui ont été sauvés. Ils ont fini leur jour en prison, mais ils ont été réconciliés avec Dieu. Dieu peut sauver n'importe qui se repent et qui croit. Mais il faut avoir la repentance, il faut reconnaître qu'on est fautif. On est perdu. Il faut avoir cette humilité de dire « Sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de ton salut. » Mais vous pouvez le faire dès ce matin, dès aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Le Seigneur frappe à votre porte. Il veut vous pardonner, vous réconcilier avec lui, vous donner la vie éternelle qui ne s'arrête pas à la mort, qui continue après la mort. Il veut vous donner des bénédictions spirituelles. Et il n'y a rien de plus merveilleux, plus riche que des bénédictions spirituelles. Paul disait, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons les autres. Comment il pouvait dire ça? Nous sommes pauvres, mais nous enrichissons les autres. Il voulait dire, nous sommes pauvres matériellement, mais nous enrichissons spirituellement. Si on avait le choix, qu'est-ce qu'on choisirait? La richesse matérielle ou la richesse spirituelle? À vous de choisir. Mais en tout cas, si vous choisissez la richesse spirituelle, elle est en Jésus-Christ. et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Elle est donnée gratuitement à ceux qui croient. On va s'incliner dans la prière un instant. Parole de Dieu, il faut agir, il faut répondre. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici ce matin qui sont nés de nouveau? Vous êtes sauvés, mais vous ne vivez pas par la foi. Vous ne cherchez pas la volonté de Dieu, vous ne faites pas la volonté de Dieu. Vous avez peut-être peur de la volonté de Dieu, mais du coup vous ne vivez pas par la foi, vous vivez par la vue. Mais ce matin, le Seigneur vous appelle à compter sur lui, à remettre toutes choses, vos décisions, vos sentiments, vos attitudes, vos épreuves. Est-ce que vous voulez le faire ce matin? Que votre vie compte pour les choses éternelles. Que vous commenciez à vraiment faire sa volonté, sans crainte, de tout cœur. Vous pouvez vraiment prier le Seigneur maintenant, vous repentir. Dire, Seigneur, je te demande pardon parce que je suis passé à côté de ta volonté, parce que j'ai fui ta volonté. Mais je comprends que ta volonté est bonne, agréable et parfaite et que tu m'appelles à te suivre par la foi. Même si je ne vois pas l'avenir, même si je ne sais pas où tu vas m'emmener, Seigneur, je sais que là où tu vas m'emmener, ce sera le meilleur endroit pour moi, pour ma famille, pour mes proches. Je sais que avec toi, on est comblé, on est béni. Que la bénédiction est auprès de Dieu, pas auprès des hommes. Seigneur, je veux te faire confiance de tout cœur pour tous les domaines de ma vie. Je te remets toute ma vie, Seigneur. Je me consacre à toi. Prends tout, Seigneur. Et si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, dans la famille de Dieu, vous pouvez commencer à utiliser votre foi, à regarder à Jésus-Christ. Lorsqu'il a accepté d'être crucifié, cloué pour vous, c'était pour vos péchés, pour vos iniquités. Et il a payé votre dette. Il a payé votre jugement, votre condamnation par sa mort. Et 3 jours après, il est sorti victorieux du tombeau. Si vous mettez votre foi en Jésus-Christ, la Bible dit, vous serez pardonné de tous vos péchés. Et le Seigneur deviendra votre berger, votre Seigneur, il vous conduira. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut se tourner vers le Seigneur pour qu'il le sauve? Seigneur, sauve-moi, je t'en supplie. Je crois en toi. Même si ma foi est petite et faible, je crois que tu as payé ma dette. Et pour prouver que vous avez cette foi en lui, vous pouvez dire à la fin de votre prière, merci. Merci pour le salut, merci pour le pardon. C'est le merci de la foi. Oui, je crois, Seigneur, que tu me pardonnes, que tu enlèves tous mes fardeaux, mes péchés, que tu me rends blanc comme la neige. Merci Seigneur. Ne passez pas à côté du rendez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu par la foi, par la foi. Amen.